Elle aimait la nuit, tome 8, chapitre 10, histoire du roi d'Adbine ou de la vertueuse Arwa. Sire, continua le jeune intendant, un roi du Tabarestan, nommé d'Adbine, avait deux vizirs dont l'un s'appelait Zurkan et l'autre Kardan. Zurkan avait une fille qui passait non seulement pour la plus belle personne de son temps, mais même pour la plus sage et la plus vertueuse. Ses qualités étaient soutenues en elle par une grande piété. Elle pratiquait tous les exercices de la religion, observait exactement les jeûnes et vaquait souvent à la prière. Le roi d'Adbine, ayant entendu parler de la beauté et des vertus d'Arwa, c'était le nom de cette personne si rare, envoya chercher le vizir son père et la lui demanda en mariage. Le vizir, à cette demande, se prosterna devant le roi, lui témoigna qu'il serait très honoré de cette alliance et le pria de permettre seulement qu'il en parlât à sa fille. Le roi y consentit, à condition qu'il lui rapporterait sur-le-champ la réponse. Arwa, ayant appris le dessein du roi, dit à son père « Mon père, je ne me sens aucun goût pour le mariage, mais si vous voulez me donner un époux, choisissez-le dans un rang inférieur au vôtre. Étant au-dessus de moi par la naissance et les richesses, il aura pour moi plus d'égards et ne prendra pas d'autres femmes. Un souverain, au contraire, me préférera bientôt une rivale. Je serai dédaignée et traitée comme une esclave. » Cette réponse portée au roi ne fit qu'augmenter son ardeur et son impatience. « Assurez votre fille, dit-il à Zurkan, que je l'aimerai toujours. Au reste, la passion qu'elle m'inspire est telle que si vous ne consentez à me le donner, j'emploierai pour l'obtenir la force et la violence. » Zurkan fit part à sa fille des sentiments et des menaces du roi. « Mon père, dit alors à Arwa, le roi veut déjà me faire sentir son pouvoir et sa tyrannie. Que serait-ce lorsque je serai devenue son épouse? Dites-lui que je suis liée par un vœu religieux et que je ne puis absolument me marier. » D'Adbine, en apprenant cette dernière résolution, fit éclater sa colère et menaça son vizir de lui faire trancher la tête s'il ne lui donnait sa fille. Zurkan, effrayé, retourne promptement chez lui et fait quelques instances auprès de sa fille. Mais voyant qu'il ne peut vaincre sa répugnance, il cède à la tendresse paternelle et se détermine à fuir avec elle. Ils montent à cheval et, suivis de quelques esclaves, ils prennent ensemble le chemin du désert. Aussitôt que d'Adbine fut instruit de leur évasion, il se mit à leur poursuite, accompagné d'un grand nombre de cavaliers. Zurkan et sa fille sont atteints et arrêtés. Le roi fond avec fureur sur Zurkan, lui décharge sur la tête un coup de sa masse d'armes et l'étend à ses pieds. Il emmène Arwa, la conduit dans son palais et la force d'accepter une main encore teinte du sang de son père. Arwa, quoiqu'au désespoir de la mort de son père et indignée de la violence que le roi lui faisait, souffrit son malheur avec patience et résignation. Elle redoubla de piété et passait une partie des jours et des nuits à prier. Cependant, le roi d'Adbine fut obligé de faire un voyage dans une province de ses états où sa présence était nécessaire. Avant de partir, il fit venir le vizir Kardan et le chargea de gouverner pendant son absence. « Ce que je te recommande par-dessus tout, lui dit-il ensuite, c'est de veiller sur Arwa. Tu sais que pour l'obtenir, il m'a fallu employer la force. Elle est ce que j'ai de plus cher au monde. Prends garde que ce trésor ne m'échappe. » Kardan, flatté de la confiance du roi, l'assura qu'il pouvait compter sur son zèle et sur sa vigilance. Après le départ du roi d'Adbine, Kardan fut curieux de voir celle dont la garde lui était confiée. Il profita de l'autorité qu'il avait sur tout ce qui entourait la reine et se cacha dans un endroit favorable à son dessein. Il fut ébloui de la beauté d'Arwa et en devint tellement amoureux qu'il en perdut bientôt le repos et la raison. Il résolut de lui faire connaître ses sentiments et lui écrivit en ces termes. « Madame, l'amour que j'ai conçu pour vous me consume. C'en est fait de ma vie si vous n'avez pitié du malheureux Kardan. » La reine, outrée de l'insolence de ce billet, le renvoya sur le champ avec cette réponse. « Le roi vous a honoré de sa confiance, tâchez de la mériter, et soyez aussi fidèle que vous voulez le paraître. Songez aussi à votre épouse, et ne trahissez pas l'amour que vous lui devez. Si vous me tenez encore une fois le même langage, je dévoilerai votre honte et vous démasquerai aux yeux du public en attendant que le roi punisse votre perfidie. » Cette lettre fut un coup de foudre pour Kardan. Il sentit qu'il lui serait impossible de séduire la reine et craignit qu'elle ne rendît compte au roi de ce qui s'était passé. « La reine peut me perdre, » dit-il en lui-même. « Il faut que je la prévienne et que je cherche un moyen de la perdre elle-même et d'empêcher que le roi ne prête l'oreille à ce qu'elle pourrait lui dire. » Cardan, ayant formé cette résolution, alla au-devant du roi dès qu'il fut informé de son retour. Tadpin lui fit d'abord quelques questions sur les affaires de l'État. Cardan y satisfit et ajouta aussitôt. « Vous voyez, sire, que la tranquillité a été maintenue et la justice exactement rendue pendant votre absence. Un seul événement pourra vous affliger, et je n'ose vous en rendre compte. Cependant, j'ai lieu de craindre que vous ne l'appreniez par d'autres et que vous ne me reprochiez d'avoir manqué à la confiance que vous m'avez témoignée. » « Parle librement, dit le roi. Je connais ton attachement pour moi et ton amour pour la vérité. Je n'aurai pas dans un autre autant de confiance que j'ai en toi. » « Sire, continua Cardan, cette épouse que vous aimez tant, que vous préférez à toutes ses rivales, dont vous admirez la douceur, la modestie, la piété, qui jeûne et qui prie avec tant d'exactitude, vient de montrer que tous ces beaux dehors ne sont chez elle que fausseté et hypocrisie et cachent une âme vile et corrompue. « Comment ? » dit le roi en frémissant. « Et que veux-tu dire ?»« Sire, continua le perfide Cardan, peu de jours après le départ de votre majesté, une femme de la reine vint me chercher secrètement et m'introduisit dans un cabinet qui donnait dans l'appartement d'un roi. Je l'avais étendue sur un sofa près d'Aboukher, ce jeune esclave qui appartenait à son père, et que vous avez comblé de bienfaits. Ils s'entretenaient familièrement ensemble, et se donnaient mutuellement toutes les marques de la plus vive tendresse. « C'en est assez, vizir, » interrompit le roi d'Adpin. « Je te charge de te faire étrangler Aboukher, mais je veux ordonner moi-même le juste châtiment de la perfide. » Le roi, de retour dans son palais, envoya chercher le chef de ses eunuques. « Va, lui dit-il, dans l'appartement de la reine et apporte-moi sa tête. »« Quoi, sire ? » s'écria le chef des eunuques, touché de compassion et entraîné par un mouvement involontaire. « Vous voulez faire périr Arloi ? Sans doute est-elle bien coupable à vos yeux. Mais ne peut-elle pas être victime de la calomnie ? Au lieu de verser son sang, faites-la plutôt transporter dans un désert. Si elle est coupable, elle y périra. Mais si elle est innocente, Dieu lui conservera la vie. » Le roi approuva le raisonnement du chef des eunuques, appela un esclave et lui ordonna de faire monter aussitôt Arwa sur un chameau et de la conduire au milieu d'un désert. L'ordre fut exécuté et Arwa laissé seule sans eau et sans provisions au milieu d'une immense solitude. L'infortunée princesse, se voyant dans cette affreuse position, ne songea qu'à se préparer à la mort. Elle monta sur une petite colline, dressa un autel en plaçant quelques pierres l'une sur l'autre et se mit à prier et à implorer la miséricorde de Dieu. Elle vit bientôt s'avancer vers elle un homme qui lui était inconnu. C'était un des esclaves du roi Khosroès, chargé du soin de garder ses chameaux. Plusieurs de ses animaux s'étant égarés, le roi l'avait menacé de le faire périr s'il ne les retrouvait pas. Il s'était enfoncé dans ce désert pour les chercher, et ayant aperçu de loin une femme, il avait été curieux de la voir de plus près. Il s'approcha donc d'Arwa, attendit qu'elle eût fini sa prière, la salua poliment, et lui demanda qui elle était et ce qu'elle faisait dans cette solitude. « Je suis, lui répondit-elle, une servante du Seigneur, occupée uniquement à le prier et à le servir. » Le conducteur de chameau, frappé de la beauté de la princesse, lui proposa de l'épouser en lui promettant d'avoir pour elle toutes sortes d'égards et de complaisances. « Je ne puis, répondit la princesse, appartenir à d'autres qu'à Dieu. Mais si vous voulez avoir pitié de ma situation et me rendre un service, conduisez-moi dans un lieu qui ne soit pas entièrement dépourvu d'eau. » L'esclave fit monter Arwa sur son chameau et la conduisit sur le bord d'un ruisseau qu'il avait remarqué en traversant le désert. Il lui exposa ensuite la peine dans laquelle il était lui-même et la pria d'adresser des vœux au ciel pour lui faire retrouver les chameaux qu'il avait perdus. La princesse le lui promit et se mit aussitôt en prière. L'esclave s'en retourna, pénétré d'admiration pour tant de vertu et de piété, et retrouva bientôt ses chameaux. De retour auprès de Khosroès, l'esclave lui rendit compte de son aventure et lui vanta la beauté de la jeune solitaire. Le roi de Perse, Khosroès, curieux de voir une personne aussi extraordinaire, sortit secrètement de son palais avec une suite peu nombreuse et se fit conduire à l'endroit où était Arwa. Il fut étonné de sa beauté et trouva qu'elle était encore beaucoup au-dessus de la peinture que lui avait faite l'esclave. Il la salua respectueusement et lui dit « Je suis le roi des rois, le grand Khosroès. Je viens vous offrir mon cœur et ma main. » « Comment, lui répondit Arwa, votre majesté pourrait-elle abaisser ses regards sur une infortunée séparée du reste du monde ?»« Je vous ai vu, reprit Khosroès, et désormais je ne puis vivre sans vous. Si vous ne consentez à devenir mon épouse, je vais fixer ma demeure dans ce désert, me ranger sous votre obéissance et me consacrer avec vous au service de Dieu. » Khosroès fit aussitôt dresser deux tentes, l'une pour lui et l'autre pour Arwa. Il se retira dans la sienne et fit porter à la jeune solitaire la nourriture dont elle avait besoin. Arwa fut sensible à la délicatesse d'une telle conduite et sentit tout le prix des sacrifices que lui faisait le roi de Perse. Elle réfléchit à la perte qu'allaient faire ses sujets et à la désolation de sa famille, et s'efforça de le détourner de sa résolution en parlant ainsi à l'esclave qui lui apportait à manger. Représentez au roi de ma part qu'il ne doit pas abandonner pour moi le soin de ses états et s'arracher à la tendresse de tout ce qui l'entoure. Qu'il retourne dans son palais, près de ses femmes et de ses enfants. Quant à moi, rien ne m'attache plus au monde. Le titre de reine ne saurait me toucher, et je dois rester en ces lieux pour y vaquer à la prière. » L'esclave, s'étant acquitté de la commission dont il était chargé, le roi fit répondre qu'aucune considération n'était capable de changer sa résolution, et qu'il ne pouvait rien faire de mieux que de renoncer lui-même au monde. Arwa, voyant que le roi était inébranlable, ne crut pas devoir résister plus longtemps. Elle adora les desseins de la Providence, qui veillait sur elle pour venger son innocence et faire triompher sa vertu. « L'intérêt de vos peuples, dit-elle à Khosroès, me fait un devoir de céder à vos désirs. Je consens à devenir votre épouse, mais à condition que vous donnerez ordre au roi d'Adbin, votre vassal, de se rendre à votre cour avec son vizir Cardan et le chef de ses eunuques. L'entretien que je veux avoir avec eux en votre présence vous apprendra des choses que vous ne devez pas ignorer. » Khosroès ne put s'empêcher de témoigner à Arwa la surprise que lui causait cette demande. Elle lui fit alors un récit simple et fidèle de ses infortunes. Khosroès en fut vivement touché. Elle lui promit de venger son innocence et de punir les crimes du roi d'Adbi. Il fit venir une litière magnifique et ils prirent ensemble le chemin de la capitale. Arwa fut conduite dans un palais somptueux et reçut le titre de reine. Aussitôt après son retour, Khosroès envoya ordre au roi d'Adbin de se rendre près de lui, accompagné de son vizir Cardan et du chef de ses eunuques. L'officier chargé de cette commission était suivi d'un nombreux corps de troupes et devait ramener avec lui le roi d'Adbin. Celui-ci fut consterné d'un ordre dont il ne pénétrait pas le motif, et son vizir n'était pas moins inquiet que lui. Ils furent obligés de se mettre en marche sur le champ et de faire la plus grande diligence. Arrivés à la cour de Perse, on les fit entrer aussitôt dans la salle où le roi donnait ses audiences. Des esclaves y apportent un trône sur lequel était assis Arwa, caché par des rideaux qui l'entouraient. On place ce trône à côté de celui de Khosroès. Arwa tire alors le rideau qui était devant elle et s'adresse à Cardan. « C'est toi, je n'en puis douter, lui dit-elle, qui, abusant de la crédulité de mon époux, m'a fait chasser honteusement de son palais. Le mensonge est ici inutile. Rends hommage à la vérité et dis quel motif t'avait fait conjurer ma perte. » Cardan, confondu, baissa les yeux et répondit en pleurant. « La reine fut toujours sage et vertueuse. Je suis le seul coupable. Un amour criminel qu'elle a repoussé avec indignation et la crainte que le roi l'en fût instruit m'ont porté à la calomnier. Le mal retombe toujours sur celui qui le fait, et mon arrêt est depuis longtemps écrit sur mon front. « Comment, malheureux ! S'écria d'Adbin en se frappant le visage. Tu as trahi ma confiance et tu m'as fait sacrifier par tes infâmes mensonges une épouse qui m'était si chère. Quel mot, quel tourment un tel forfait ne mérite-t-il pas ?» Cardan, reprit aussitôt Khosroès, n'est pas ici le seul coupable. Toi-même, d'Adbin, tu mérites la mort pour avoir si légèrement ajouté foi à la calomnie et puni ton épouse avec tant de précipitation. Si tu eusses examiné, recherché la vérité, tu aurais découvert facilement le mensonge et distingué l'innocent du coupable. » Khosroès, s'adressant ensuite à Arwa, lui dit « Soyez ici le juge, madame, et prononcez leur arrêt. » « Si, répondit Arwa, Dieu les a jugés lui-même. Celui qui donne injustement la mort sera condamné à mort. Celui qui maltraite sera maltraité, et celui qui fait le bien en recevra la récompense. Tadbin a tué injustement d'un coup de masse d'armes un père que je chérissais. Son sang crée vengeance, et je dois entendre sa voix. Par les artifices du vizir Cardan, j'ai été abandonné au milieu d'un désert. Il est juste qu'il éprouve le même sort. S'il est coupable aux yeux de Dieu, il y périra de faim et de soif. Et s'il pouvait être innocent, il serait préservé de la mort comme je l'ai été moi-même. Quant au chef des eunuques, il s'est montré sensible et compatissant, en conseillant au roi de ne pas me faire trancher la tête. Sa conduite mérite des récompenses, et il serait à souhaiter que les rois n'accordassent leur confiance qu'à des hommes de ce caractère. Khosroès fit aussitôt assommer le roi d'Adbin d'un coup de masse d'armes et donna ordre de faire monter Cardan sur un chameau et de le conduire au milieu des déserts. Il fit ensuite approcher le chef des eunuques, le revêtit d'une robe d'honneur et lui donna un emploi distingué. « C'est ainsi, ô roi, ajouta le jeune intendant, que celui qui fait mal est toujours puni. Mais celui qui est innocent ne doit rien craindre. Je n'ai commis aucun crime. » J'espère que Dieu vous fera découvrir la vérité et confondra la malice et la méchanceté de mes ennemis. » L'histoire du roi d'Adbin et de son vizir Cardan avait fait impression sur le roi d'Abart. Il sentait s'élever dans son esprit des doutes, des soupçons, et résolut de remettre encore au lendemain la punition du coupable. La sage lenteur du roi d'Abart irritait de plus en plus ses dix vizirs contre le jeune homme. Ils étaient piqués de ne pouvoir réussir à se défaire de lui et craignaient que ces retards ne leur devinssent funestes. Le lendemain, trois d'entre eux se présentèrent ensemble devant le roi, se prosternèrent à ses pieds et lui dirent par l'organe de l'un d'eux : « Sire, l'intérêt de l'État et notre attachement pour votre personne nous obligent à vous conseiller de ne pas épargner plus longtemps ce jeune esclave. À quoi bon, en effet, le laisser vivre plus longtemps ? On s'étonne que son audace ne soit pas encore punie. Et chaque jour, il se répand de nouveaux bruits injurieux à l'honneur de votre majesté. » Azadbart, reconnaissant que ses trois vizirs avaient raison, envoya chercher le jeune intendant et lui dit : « J'ai beau différer de prononcer ton arrêt, tout le monde demande ta mort, et personne ne se présente pour prendre ta défense. » « Sire, reprit sans s'effrayer le jeune homme, ce n'est pas des hommes que j'attends du secours, mais de Dieu. Si Dieu est pour moi, je n'ai rien à redouter. Tous ceux qui mettent ailleurs leur confiance éprouvent le sort qu'éprouva longtemps le roi Barthéman. » « Cette histoire doit être édifiante, dit Azadbart. Je ne puis refuser de l'entendre. »